Bonjour. Ainsi, la semaine dernière, je vous annonçais, à partir de la lettre du pape aux familles, des libres propos autour de la famille que nous pourrions échanger ou que je vous proposerai pendant quelques semaines. Tout d'abord, comme une sorte d'introduction, je voudrais faire état d'une question qui m'a été posée récemment dans une discussion publique. Des gens me disaient, mais pourquoi le pape a-t-il l'air de tant tenir au problème de la famille actuellement? Ou encore, d'autres m'ont posé la question en sens inverse. Ils m'ont dit, le pape n'est-il pas le plus grand défenseur de la famille dans la société actuelle? En fait, pour bien comprendre ce dont il s'agit, la famille, ce n'est pas forcément tel mode très précis d'organisation auquel nous sommes habitués. Les observateurs, les sociologues, les ethnologues, les historiens nous montrent très, très aisément, y compris dans le seul Occident, sur l'histoire de la France, si vous voulez, ou des pays chrétiens d'Occident, d'Europe, que la famille, ses manières de vivre, la manière dont elle est composée, ont évolué et évoluent au cours des temps. Et comme des observateurs qui veulent essayer de traiter les questions avec rigueur scientifique, ou au moins rationnelle ou utile, la première chose que l'on fait dans ces cas-là, c'est de classer en petit A, et donc on distinguera la famille nucléaire, la famille patriarcale. Vous avez peut-être lu et entendu tout cela. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette organisation, cette variation dans l'organisation de la famille? Ça signifie que les modes de vie font que, autour du père et de la mère et des enfants, il peut y avoir toutes sortes d'autres regroupements, comme les grands-parents, les arrière-grands-parents, les collatéraux. On peut voir des organisations que l'on a bien connues dans un univers paysan et rural ou de subsistance, où une famille, c'était presque une maison avec toute une parenté proche qui demeurait proche physiquement. Certains d'entre vous ont encore connu le temps où il était rare dans une famille que les parents, oncles, tantes, grands-parents, petits cousins s'éloignent beaucoup. Il y avait toujours un petit lot d'aventuriers qui franchissaient les frontières non seulement du village ou de la région, mais qui s'en allaient s'expatrier au loin, à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Il y a toujours eu des voyageurs. Mais la parenté se trouvait dans cette région. La meilleure preuve, c'est que quand aujourd'hui vous avez le goût pour les arbres généalogiques, vous voyez bien comment l'origine du famille, pendant des siècles, a été cantonnée dans tel espace, dans telle région, et on suit des migrations plus ou moins. Bon, voilà un exemple. Et puis, c'est très différent du couple familial qui s'est installé dans une grande ville, coupé des grands-parents et des cousins qui sont répartis aux quatre coins du monde et qui se retrouvent, monsieur, madame, bébé, tout seul dans deux pièces cuisine. Voilà à peu près les extrêmes. Mais il y aurait bien d'autres modèles que l'on pourrait isoler et montrer, selon que le travail nourricier est une entreprise familiale. C'était le cas, naguère, de l'exploitation familiale. Mais aussi, parfois, des artisans ou des commerçants, où tout le monde, dans la famille, non seulement à sa façon l'épouse, à l'égard de l'époux, mais les enfants aussi, participaient à l'entreprise familiale, y travaillant dès qu'ils avaient terminé leur scolarité, y faisant leur apprentissage et succédant plus ou moins au père. C'est là ainsi qu'il y a eu des généalogies, des générations dans telle profession, voire même dans des professions de type que nous appellerions aujourd'hui culturel. Il y a eu aussi des familles et des traditions de musiciens comme des familles de peintres. Les exemples illustres ne manquent point. Donc, nous voyons bien que les modèles d'organisation familiale varient au cours des temps. Mais est-ce la famille qui bouge? Qu'est-ce que c'est que la famille, au sens le plus fort du mot? Eh bien, à ce moment-là, nous sommes obligés de voir que la famille est liée à la condition presque biologique et corporelle de l'homme, de l'être humain. Et tout de suite, nous allons buter sur quelque chose de tout à fait original. Biologiquement, et cela n'est pas le propre de l'espèce humaine, puisque cela est vrai de toute une partie des êtres vivants, de ceux qui sont nos plus proches apparentés, un être humain naît d'un père et d'une mère, de la fécondation d'une femme par un homme, et du coup, ce n'est pas seulement un problème biologique de reproduction, mais il y a immédiatement une relation singulière de l'enfant au père et à la mère, et ceci n'est pas isolable, parce que le père et la mère sont eux-mêmes enfants de quelqu'un, et ils sont frères et sœurs d'autres. Vous voyez bien que, du coup, le simple constat biologique nous montre qu'il y a qu'aucun être humain ne naît dans un chou, tout seul. Il n'y a pas de fils de personne. Et il n'y a aucun être humain qui ne soit inscrit dans cette chaîne des vivants. Alors vous diriez, oui, d'accord, mais au fond, ce que vous dites là n'est pas très original. C'est vrai des animaux de basse-cour, c'est vrai des mammifères en général, c'est vrai de beaucoup d'autres êtres vivants. Et dans les êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains, la nature n'en fait pas une telle histoire. Et on voit bien comment il y a, quand on observe les mœurs des animaux, des comportements assez différents pour l'élevage des petits. Oui, mais nous sommes bien des êtres vivants analogues et comparables aux autres animaux de la nature. Oui, mais un petit enfant, ça se porte 9 mois dans le sein de sa mère. Mais pour être un être humain, suffit-il qu'il le soit dès qu'il est conçu? Ou doit-il encore, pour se déployer, pour devenir ce qu'il est? Combien de temps faut-il pour qu'un petit bébé, encore présent dans le ventre de sa mère, devienne un être qui a acquis tout le potentiel dont il est capable et qui fera de lui ce qu'il était déjà depuis le départ, mais qui n'était pas encore apparu? Autrement dit, je suis en train de décrire ce qu'on pourrait appeler la croissance, l'histoire d'un être. Parce que vous voyez bien, même dans les histoires qu'ont des enfants abandonnés depuis Romulus et Rémus, abandonnés dans la légende romaine, et qu'une louve a recueilli pour donner la naissance de la nation romaine, ou bien Moïse, à cause de la persécution, abandonné par sa mère dans un berceau d'osier et jeté à l'eau fleuve et recueilli par la fille de Pharaon, dans les deux cas, le petit bébé, même jeté, a besoin d'être comme porté à nouveau pour qu'il devienne vraiment, parce qu'il est trop fragile, il ne peut pas survivre tout seul, il a besoin d'être nourri, puis il a besoin qu'on lui apprenne à parler, il peut parler. Vous pouvez toujours essayer d'apprendre à parler à un singe. Vous n'y arriverez pas. Mais un petit homme, si on ne lui apprend pas à parler, ne parlera pas alors qu'il est capable de parler. Là, c'est un très bon exemple, ça. Ça montre qu'il est déjà un être humain qui parle, mais il ne peut parler que si on la lui apprend. Et apprendre ne peut se faire que parce qu'il est capable de le faire et qu'il veut parler. Il veut parler. Il veut parler sans savoir qu'il le veut. Mais dès qu'il existe, il réagit. Et il réagit pas seulement comme l'animal réagit au stress et exprime ainsi les pulsions, mais il réagit avec ce que nous savons être nous. Nous appelons ça la conscience, l'intelligence, la sensibilité, la personnalité. Voilà un mot encore plus fort. Nous appelons ça la condition humaine. La famille apparaît dans l'humanisation, dans le fait qu'il s'agit d'un être humain, personne, image et ressemblance de Dieu, qui transforme et assume la condition biologique, et qui, même change la condition biologique d'une certaine façon. Car aucune espèce animale ne pourrait survivre si l'éducation de ces petits reposait à ce point sur la transmission de quelque chose d'immatériel qui s'appelle le langage, la culture, l'intelligence, l'éducation. L'éducation fait partie de l'enfantement. Voilà. Et ça fait partie de l'enfantement, non pas comme une donnée biologique, mais comme une construction spirituelle d'un être humain. Je prends spirituel parce que spirituel, ça veut dire esprit. Je sais que le mot est ambigu, ou plutôt qu'il a deux sens. Il signifie pour nous aussi l'Esprit Saint. Et il signifie aussi l'esprit de l'homme, l'esprit que Dieu met en l'homme, le souffle divin que Dieu met en l'homme pour en faire un être à son image et à sa ressemblance, et qui se déploie dans l'humanisation de l'intelligence animale, qui devient conscience d'elle-même et conscience d'autrui, qui devient personnelle. Ainsi, vous le voyez, là, aucune espèce animale ne pourrait survivre si l'éducation, si la croissance d'un être durait aussi longtemps, était aussi aléatoire. Car l'éducation humaine, en introduisant le facteur personnel et de la liberté, le facteur proprement humain, en faisant qu'un être humain est un homme et pas seulement un petit animal, ou un petit chien, ou un petit chat, change complètement, parce que c'est la liberté qui se déploie dans l'intelligence et par la personnalité. Et la liberté humaine, c'est pas seulement le pouvoir d'errer comme un animal erre à la conquête de pour satisfaire ses instincts, ou pour répondre à ses habitudes et ses pulsions et ses constructions qui sont inscrites dans sa biologie, parfois avec une infaillibilité beaucoup plus grande que l'homme n'est capable de le faire, mais c'est la liberté qui décaractérise à la fois et l'intelligence humaine et son désir, et sa capacité de parler, de s'exprimer, de relation. Ainsi donc, le fait humain fait de la famille, au sens le plus fort du mot, cet entrelac de responsabilité mutuelle de l'homme et de la femme, des parents et des enfants et des parents, et des relations qui s'étendent au-delà de l'enfantement propre d'un seul couple et d'un seul être. À la semaine prochaine.